Et puis en même temps, nous célébrons la mémoire des pères du 4e concile œcuménique. 4e concile œcuménique qui s'est tenu en 461 à Chalcédoine. Chalcédoine était une petite ville à l'entrée du Bosphore, dans la partie asiatique de Constantinople. Ça faisait pendant à Constantinople. Constantinople était sur l'ouest du Bosphore et Chalcédoine à l'est. Maintenant, il y a deux ponts qui réunissent les deux côtes, mais à ce moment-là, c'était deux continents bien séparés, mais unifiés dans l'Église et dans l'administration impériale. Et ce n'est pas pour vous raconter l'histoire de Chalcédoine, ni même l'histoire du Concile, mais vous montrer un aspect pratique des conséquences des définitions dans un concile. Un concile proclame officiellement la foi de l'Église, qu'on appelle des dogmes, mais c'est moins une spéculation intellectuelle tiré bien sûr de la tradition de la lecture des évangiles et de toutes les écritures avant, plutôt que l'expression suscitée par l'Esprit Saint, l'expression de la conscience qu'a l'Église de tel ou tel aspect de la vie avec Dieu ou de la divinité. Qui est, car déjà avec les évangélistes, les trois évangélistes synoptiques qui ont fait des évangiles un peu assez parallèles, avec saint Jean qui a approfondi, qui a donné le sens, la signification, donc par une réflexion supplémentaire sur ce qu'a représenté la vie du Christ parmi les hommes, saint Paul qui en a montré déjà les conséquences et la manière ce que ça impliquait dans la vie des hommes qui ne pouvaient pas vivre comme si le Christ ne s'était pas incarné, n'était pas devenu l'un d'eux. Et après, notamment quand on a eu des explications erronées, qu'on appelle les hérésies, sur les mystères de la vie du Christ ou de la relation entre les trois personnes divines que le Fils nous a révélées par l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église, chez chaque homme, l'Église, les hommes dans l'Église ont pris conscience, ont réalisé, comme le Seigneur l'avait promis, ce qu'impliquait l'avenue du Sauveur et la venue de l'Esprit Saint. Le Seigneur dans l'Évangile nous avait dit que vous verrez bien des choses encore, et quand je, disait-il, serai parti, l'Esprit Saint vous enseignera lui-même ce que moi je ne vous ai pas dit, mais ce qui découle de sa vie et de son enseignement, bien sûr. Et dans ce concile de Chalcédoine, en 461, quatrième concile, les pères ont réalisé que le Fils, la deuxième personne de la Trinité, et c'est fondamental pour notre foi, il est parfait quant à sa divinité et parfait aussi quant à son humanité. Véritablement Dieu, totalement Dieu et en même temps totalement homme. Mais sa nature divine n'est pas changée par l'acquisition de sa nature, de la nature humaine, et la nature humaine n'est pas changée non plus par la présence, par son union avec la nature divine. Donc, ce qui est fondamental dans notre foi, c'est que le Christ est parfaitement Dieu est parfaitement homme. Étant parfaitement homme, il n'est pas un homme comme les autres hommes. Il est homme, comme le dit le Concile, le même consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint, le même consubstantiel aux hommes. C'est-à-dire qu'il a la même nature, la même substance, le même, je ne sais pas d'autres termes, la même nature. Oui. Et c'est ce que Saint Paul avait déjà compris mais qu'on n'avait pas développé encore théologiquement, quand il exprimait que les hommes sont les membres du corps du Christ. Nous sommes tous, par notre nature, les membres de l'unique Christ. Puisqu'il est consubstantiel aux hommes, nous sommes consubstantiels à lui, en lui, et nous partageons sa vie elle-même, non pas en ayant une vie comme la sienne, mais nous partageons la vie qui est la sienne. Ceci est à la base de notre vie spirituelle. Pourquoi nous recevons les sacrements? Pourquoi nous pratiquons une certaine ascèse? Pourquoi nous avons une gestuelle, si je peux l'appeler comme ça, dans notre prière, avec des métanies, des génuflexions, des signes de croix, des inclinations? Pourquoi nous avons des jours où nous avons la possibilité de manger des choses que nous ne pouvons pas manger d'autres jours, et inversement? Tout cela découle du fait que nous sommes, que le Christ est consubstantiel aux hommes, et que en lui nous vivons, nous sommes, notre nature est unie par la sienne à la nature divine, et que toute notre vie sur terre consiste à apprendre et à transfigurer notre nature humaine par la réception de la vie du Christ, qui est à la fois Dieu et à la fois homme et à la fois Dieu, comme je suis en train de vous le dire, qui vient en nous et qui nous transforme non pas en un autre être, mais qui ajoute à notre humanité sa propre divinité qui devient la nôtre. Saint Pierre, vous savez bien, dit dans sa première épître que les hommes devaient devenir participants, merci bien, devaient être participants à la vie divine. La vie divine ne nous est pas, n'est pas notre nature à nous, mais nous sommes unis à la nature divine et nous acquérons la nature divine. Et je vous ai déjà donné 100 fois cet exemple de la pièce d'une pièce de métal, par exemple cette cuillère, qui est du métal, qui a une forme particulière, que vous plongez dans le feu, elle acquiert les propriétés du feu, elle devient brûlante, elle devient brillante, incandescente, elle enflamme du papier qui s'approche, elle acquiert les propriétés du feu, mais le fer n'est pas devenu du feu, et le feu n'est pas devenu du fer. Les deux natures sont distinctes et pourtant parfaitement unies. Eh bien, en quelque sorte, notre toute proportion gardée, évidemment, comme c'est le cas de toute image, les hommes unis à Dieu, à la nature divine, sont un petit peu comme la pièce de métal chauffée par le feu. Mais c'est encore ceci qui implique et qui permet ou qui impose notre conscience, par exemple, de la liturgie. Je vous parlais de la 16 avant, mais aussi de la liturgie. Qu'est-ce que, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'est la liturgie? La liturgie peut être, pourrait être, un culte, c'est-à-dire une attitude, des rites, signifiant des mystères que l'homme offrirait à Dieu en offrant le meilleur de lui-même, par exemple sa vie spirituelle. Mais la liturgie n'est pas ça. Parce que le Seigneur, le Fils, le Verbe de Dieu, est consubstantiel aux hommes, notre, par voie de conséquence, la liturgie, celle à laquelle vous venez d'assister et auquel vous assistez, à laquelle vous assistez, participez tous les jours, la liturgie est l'expression, la réception sensible, expérimentale, par notre âme, par notre esprit et même par nos sens, du reflet de la nature divine dans la nature humaine du Christ. Par la liturgie, nous percevons, même physiquement, plus ou moins selon notre attention, selon notre état intérieur, mais nous percevons même physiquement le reflet de la gloire de Dieu qui se manifeste dans le corps du Christ et manifesté par l'ensemble des fidèles qui sont des personnes différentes personnes juxtaposées, mais en communion les unes avec les autres et qui forment le corps véritable du Christ et le corps transfiguré du Christ. La liturgie est une expérience authentique de la transfiguration, c'est-à-dire du résultat de la métamorphose de notre nature et de notre vie par la nature divine du Christ et par la vie du Christ. C'est la raison pour laquelle, au moment de la grande entrée, le cœur chante « Déposons tout souci de cette vie ». Pas simplement pour être dégagé de nos soucis, des impôts à payer, de la politique ou des matchs qui se jouent à l'échelle mondiale, et pour être un peu plus attentif au mystère qui est censé se vivre, mais pour déposer vraiment tout aspect, toute attention aux choses humaines, même, et je ne voudrais pas vous scandaliser, mais même à la conscience de notre péché pourtant réel. De manière à ce que notre être, notre âme, détachée de tout cela, contemple aussi purement que possible, contemple la gloire de Dieu dans la... C'est une... Pendant la liturgie, nous sommes comme Pierre, Jacques et Jean, englobés dans la nuée lumineuse qui entoure, qui irradie ou qui émane du Christ et qui se répand sur les trois apôtres et qui transfigure le monde entier. La liturgie, c'est cela. Bien sûr, comme nous collons à la terre, comme nous avons toutes nos passions et comme nous avons toutes nos pensées, comme nous sommes souvent, nous nous attachons aux choses de ce monde, à la beauté des champs ou au contraire aux canards qu'on peut entendre, aux à-côtés. Il n'y a pas de critique derrière, c'est simplement un exemple comme ça. Et bien sûr, on ressent nos douleurs, les douleurs dans nos jambes du fait d'avoir été longtemps debout, le sommeil qui nous assaille parce que la nuit a été trop courte, les mains qui brûlent parce qu'on les a mises dans la chaux. Enfin, je ne sais pas quel exemple plus concret vous prendre. Tout ça, on le ressent. Mais la longueur de la liturgie, avec ce qui a précédé, avec les offices qui ont précédé, nous ont fait sentir la lourdeur de notre condition humaine. Nous sommes effectivement fatigués. Nous avons éventuellement trop chaud ou quelquefois trop froid. On rêve du petit déjeuner qu'on va avoir ou de la dinde au marron qui est en train de cuire suivant les récits d'Alphonse Daudet. Notre nature humaine n'est pas effacée, mais la liturgie nous fait dépasser et nous élever notre être à un autre niveau d'existence qui est perceptible, qui est surtout au niveau de la foi. La foi, c'est une véritable vision. Croire, c'est voir. Mon but n'est pas aujourd'hui de vous montrer le parallèle entre la foi et la vision. Pourtant, Saint Jean, comme Saint Paul, comme tous les apôtres et comme toute la tradition de l'Église, nous montre bien que croire, c'est voir. Et dans la liturgie, croire que nous sommes en communion, c'est-à-dire que la liturgie n'est pas un lieu, évidemment, c'est au-delà de l'espace, c'est au-delà du temps, mais on est bien obligé de s'exprimer avec des concepts spatiaux et chronologiques. Et nous sommes véritablement en la communion avec le Christ fait que nous dépassons le temps et que nous entrons réellement, concrètement, mais d'une manière inimaginable dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle. Nous avons déjà l'expérience de la vie éternelle. Nous sommes véritablement, notre liturgie est une concélébration réelle, pas simplement en image ou en imagination, mais c'est une concélébration réelle entre les anges qui entourent le trône de Dieu et les hommes qui entourent avec eux le trône de Dieu, nous dans les cieux avec les anges et les anges avec nous présents sur terre. Nous ne le faisons pas encore parce que nous n'avons pas les moyens matériels, mais pendant la liturgie, normalement, on devrait allumer le polyéléos, c'est-à-dire le lustre central de l'Église avec une multitude de lumières, et le choros qui fait tout le tour, et on devrait les balancer. Ils devraient se balancer au rythme du chant des chérubins. Ces lumières-là, sur les lustres, représentent les anges qui danse en chœur avec les hommes et nous avec eux. Et pour cela, il faut déposer toutes nos visions humaines, nos sensations humaines, déposer tous les soucis du monde pour accéder à ce niveau de l'existence qui, comme je vous le dis, est un niveau réel, n'est pas simplement un niveau symbolique, si vous voulez. C'est pas de l'imagination, c'est pas de l'imagerie. Et tout cela, toute cette expérience de la liturgie et de la vie spirituelle, ce qui ne fait qu'un, découle de ce que l'Église a pris conscience, de ce que les pères des conciles ont pris conscience, que nous sommes que le Christ est le même et consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint, et le même consubstantiel aux hommes. Et c'est comme cela que pendant la liturgie, ce qui se manifeste plus particulièrement, mais ceci est vrai aussi pour toute élévation de l'âme dans la prière, c'est pour cela qu'au moment dans ces moments-là, nous sommes réellement, concrètement, dans notre nature humaine, présents véritablement au pied de la croix, avec la Mère de Dieu et Saint Jean, au moment de la crucifixion du Sauveur, que nous sommes présents aussi avec les Saint Joseph et les bergers et les mages, nous sommes présents aussi dans la grotte de Bethléem, dans le mystère de l'incarnation dans la grotte de Bethléem, nous sommes aussi présents dans le tombeau avec le Christ mort et ressuscitant dans le tombeau, et nous sommes aussi présents, nous avons l'occasion d'en parler souvent au jour de la fête de l'Ascension, nous sommes aussi réellement présents avec en Christ dans le royaume des cieux au moment dans son ascension. Quand il est monté au ciel à son ascension, qu'il s'est dissimulé aux yeux des hommes, nous sommes déjà montés avec lui et nous siégeons déjà aujourd'hui avec lui, en lui, à la droite du Père. Et là, dans la liturgie, il faut déposer justement essayer, tendre à déposer nos visions humaines, logiques, scientifiques, rationnelles sur ce qui se passe pour, à part la foi, nous élever dans cette autre condition qui sera la nôtre définitivement après notre mort. Ce n'est pas pour rien que notre monastère a le nom de la Transfiguration. Nous ne sommes pas plus transfigurés que les autres, mais nous avons la conscience, le fait de patronage de notre monastère nous donne la conscience aussi, plus particulièrement, de ce mystère de la Transfiguration. La Transfiguration, le mot grec, c'est métamorphose, métamorphosis. La métamorphose, comme vous connaissez la métamorphose de la chenille, qui devient une chrysalide, pas forcément belle d'ailleurs, et qui éclot en magnifique papillon. Même quand ils viennent bouffer nos buis et faire crever. Ça, là, je dépose pas les soucis du monde. Cependant, si vous avez vu quelquefois ces papillons-là, ils sont splendides aussi. Ils font des dégâts, mais ils sont splendides. La métamorphose, c'est cette transformation vivante d'un être qui reste ce qu'il est, mais sous une autre forme. Notre métamorphose, c'est notre nature humaine qui reçoit le feu, la chaleur, la vie, le rayonnement de la vie divine et qui est illuminée par cette vie divine. Et la liturgie, comme je vous dis, l'expérience la plus facile et la plus quotidienne. Ceci à travers les rites, à travers les prières, à travers le mystère qui se célèbre, et c'est la raison pour laquelle il est tellement important sans entrer dans les notions d'intégrisme au sens occidental du terme, mais de respecter, de vivre, de suivre, pardon, la manière dont les premiers pères célébraient déjà la liturgie sans la changer. Il y a des raisons. Les symboles, les rites, les prières qui sont dans la liturgie et dans tout l'office ont des raisons d'être, qui ont une répercussion sur notre corps, sur notre intelligence et sur notre âme. Et changer quelque chose dans ce domaine-là, alors qu'il y a une expérience multimillénaire, puisqu'elle remonte aux origines même de l'Ancien Testament, donc aux origines de l'humanité. Et il y a une efficacité, si je puis dire, non magique bien sûr, mais une efficacité réelle des gestes que nous accomplissons qui viennent nous faire prendre conscience et révéler la manifestation d'une autre réalité. Notre vie chrétienne ne consiste pas en une vie morale, elle implique une vie morale qui en découle. Mais le but de la vie chrétienne n'est pas une vie morale, mais c'est une expérience, une expérience de la vie telle que Dieu nous l'avait donnée au moment de notre création, avant qu'elle ne soit abîmée avant qu'elle ne soit salie par notre péché, qu'on appelle le péché, ce qu'on appelle le péché originel, si vous voulez. Mais c'est simplement, quand dans le paradis, l'homme marchait avec Dieu, l'homme était un avec Dieu, il côtoyait Dieu, il voyait Dieu, il discutait avec Dieu, pour prendre des notions humaines, évidemment. Et notre péché nous a mis dans une situation de mort et de séparation avec cette vie-là. Mais la vie chrétienne consiste à réapprendre à vivre comme on vivait dans le paradis. On n'y arrive pas, à part les grands saints, nous n'y arrivons pas parfaitement, mais notre élan, les résultats du baptême et de l'Eucharistie, des trois sacrements, baptême, chrismation et Eucharistie que nous avons reçus, nous remettre dans le processus, dans la dynamique de retrouver cette vie-là, qui sera la nôtre en plénitude après notre mort, quand nous serons dépouillés de notre tunique de peau, mais dont nous pouvons déjà percevoir les effets pendant notre vie terrestre.